Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Ce sont deux personnes que nous avons rencontrées avant. Je vous parle d'un temps où les restaurants étaient ouverts, où les jeunes jouaient au basket dans les terrains municipaux, où on pouvait acheter des livres, l'époque du stade 2. Déjà, les élèves avaient été renvoyés chez eux et à ce moment-là, ils trouvaient encore ça super, ces grandes vacances. Les badauds continuaient à baguenauder, on faisait des blagues, les Parisiens n'étaient pas partis. C'était vendredi. Vendredi dernier, le 13 mars, que nous avons rencontré ces deux personnes qui nous ont semblé, à cette époque déjà lointaine, emblématiques, signifiantes, très stade 2. Il nous a semblé que replacées dans ce contexte, elles restaient intéressantes à entendre et avaient des choses à nous dire. Rencontrée vendredi 13 donc au matin par Rémi Dibowski-Douat, voici d'abord Madeleine Lhôte. Elle est médecin généraliste, elle a 36 ans et elle exerce à Paris dans une maison de santé du 19e arrondissement. Une maison de santé, c'est un regroupement de différents professionnels de santé qui se sont installés là pour répondre à un manque de soins dans le quartier. Elle raconte sa semaine en stade 1 et 2, ses inquiétudes, son quotidien d'un autre temps.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Moi, je m'appelle Madeleine Lhôte, je suis médecin généraliste, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants. Dans mon histoire de vie, j'ai été interne aux deux hôpitaux de Paris, j'ai travaillé aux urgences, j'ai été salariée en centre de santé et je suis maintenant installée comme médecin généraliste libéral depuis 2014, date où on a ouvert la maison de santé et nous sommes actuellement 10 professionnels à y travailler. On a une activité qui est assez forte hein, parce qu'on est 4 médecins en permanence à travailler, du coup au moins 7 médecins à tourner ici et on a un bassin de population qui est assez précaire effectivement avec des besoins de santé qui sont quand même très très importants. Là maintenant, on se retrouve confronté, comme tous les bassins de population, à la difficulté supplémentaire que représente le coronavirus actuellement. Pourquoi ? Parce que en réalité, il vient exacerber des difficultés qu'on connaît tous au quotidien, avec des inquiétudes qui sont très fortes et chez les patients et chez les soignants, justement parce que on est dans une situation qui est un petit peu bancale, où les gens ne savent pas trop. Comment se soigner ? Est-ce qu'ils ont le droit de venir nous voir en consultation ? Est-ce qu'ils doivent se protéger ? Oui ou non ? Est-ce que nous, soignants, on doit se protéger ? Oui ou non ? Et c'est vrai qu'on se retrouve à bricoler un petit peu comme on peut, avec des consignes qui changent à peu près tous les jours, ou alors pas de consignes, et vraiment très 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 en difficulté quand même par rapport à comment faire en sorte de gérer les patients fragiles. Et donc... Là, on est au lendemain du coup de l'annonce d'Emmanuel Macron sur le confinement, sur la fermeture des écoles et tout ça. Et quand je suis arrivée, moi, ce matin au travail, réellement, je me suis sentie comme quand j'ai travaillé le lendemain des attentats, avec un espèce d'état de sidération justement de la population. Les rues sont très calmes, il y a beaucoup moins de voitures que d'habitude. Les gens ont peur, sont un petit peu confinés. Et pour vous raconter une anecdote, du coup, le 14 novembre, donc le lendemain des attentats, j'ai vu un monsieur qui est arrivé en larmes. C'était ma première consultation du matin, on a tous pas beaucoup dormi hein, le 13 novembre, et ce monsieur était pilote d'avion. Il me dit, écoutez docteur, j'habite en face du Bataclan, je suis pilote d'avion, je suis pilote Air France, je vous en supplie, je suis incapable de faire décoller cet avion, il me faut un arrêt de travail. J'étais moi-même dans le même état de sidération que lui, en ayant très peu dormi, et évidemment j'ai fait son arrêt de travail. Et je vous avoue que là, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, on a l'impression, nous soignants, d'être un petit peu les pilotes de cet avion-là et de pas très bien savoir comment le faire décoller. Parce que moi qui étais urgentiste, du coup, c'est vrai que ça fait quand même plus d'un an maintenant que les urgences partout en France sont en grève, avec un appel, un cri du cœur réel des soignants qui disent « l'avion est en train de crasher, l'avion est en train de tenir et d'être morcelé avec des bouts de scotch et on le tient en l'air tant qu'on peut, mais par pitié, aidez-nous ». Et en fait, du coup, on a bien compris hein, dans le ton du président de la République hier qu'il y avait quand même un réel danger et que nous-mêmes, médecins généralistes de ville, du coup, on était peut-être mal informés de tout ce qui s'était passé et des informations qu'on était susceptibles de donner aux patients, et qu'il y avait réellement un enjeu de gravité dont, je pense, même nous, on n'avait pas conscience. On a eu des consignes de plutôt rassurer la population en disant « oui, ce virus, il est très contagieux, ça c'est certain, beaucoup plus que la grippe, mais a priori, il serait moins mortel que la grippe, donc prenez des mesures de précaution contact et faites attention aux patients fragiles ». En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, sauf que ça, c'est la recommandation officielle, mais que, pour vous donner un autre exemple, la semaine dernière, on a reçu ici même un de mes patients qui est en soins palliatifs, et ce patient sous chimiothérapie me réclame un masque pour le protéger. Et là, on s'est retrouvés, nous, extrêmement, extrêmement embêtés, parce qu'en fait, on n'avait pas de masque. Alors que le matin même, le gouvernement disait « c'est bon, on est prêt, les urgences sont prêtes, les masques ont été livrés », on était là, nous, sans masque à donner à ce petit monsieur qui était... clairement très exposé, très en danger par les autres patients, même par moi-même qui peut être vectrice de la maladie sans le savoir. Et du coup, on est aussi dans cette situation-là à bricoler, très très bancale, de dire bah, on cherche à protéger nos patients quand même, mais on n'a pas les moyens de le faire. La semaine dernière, on a reçu en consultation une dame qui avait un syndrome grippal avec une toux, une fièvre, tous les caractères cliniques qui font évoquer un coronavirus, et cette dame était directrice d'école. Et on a cherché à joindre le SAMU pour avoir une ligne de conduite justement par rapport à l'école. On allait la mettre en arrêt de travail, ça posait pas de problème. Mais est-ce qu'il fallait confiner l'école, faire une déclaration, faire des processus beaucoup plus administratifs? On a essayé d'appeler le SAMU et ma collègue a passé 1 heure et quart à attendre que quelqu'un au niveau du SAMU de Paris décroche. Une autre patiente que j'ai vue la semaine dernière, avec une petite fille, un tout petit bout de chou qui avait 1 mois et demi et qui avait de la fièvre. J'étais quand même très très embêtée que cette petite fille ait de la fièvre. Elle me raconte avoir été la veille aux urgences, un grand hôpital pédiatrique parisien, d'y avoir attendu 5 heures avec sa petite fille de 6 semaines et de pas avoir pu voir de médecin. Et du coup, elle a fini par partir et du coup, par revenir me voir en consultation et j'ai dû la renvoyer aux urgences. Et elle me dit, vous savez, ce qui est terrible, en fait, c'est de voir dans les yeux des soignants des urgences cette gêne, cette difficulté de prendre en charge des patients dont on sait qu'il devrait être pris en charge, qu'il devrait être prioritaire. Là, cette petite fille, elle a passé 5 heures aux urgences sans voir personne. On est en dessous des recommandations. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de soignants pour s'occuper de ce bébé. Et donc, on est sur un bébé qui est potentiellement mis en danger parce qu'on n'a pas assez de soignants pour s'occuper d'elle. La semaine dernière encore, j'ai vu une infirmière en réanimation qui travaille de nuit et qui me dit « Docteur, j'y arrive plus. J'y arrive plus parce que je dors plus, je mange plus, j'arrive pas à m'occuper des patients parce qu'on est en tension permanente. On nous explique que du coup, la réanimation, il va falloir qu'on trouve de la place parce qu'on sait qu'on se prépare à un afflux de patients qui va être important. Mais qu'en l'occurrence, on parle de patients de réanimation et que en médecine, du coup, on gère de l'humain et qu'on peut pas faire des choix justement sur... Quel patient on fait sortir de réanimation, surtout s'il n'est pas stable, alors qu'on sait très bien que, potentiellement, il y a 30 malades derrière. Mais en l'occurrence, nous, quand on est soignant, on a un patient en face de nous et notre travail, c'est de faire en sorte qu'il aille bien, qu'il soit dans un parcours de soins le plus optimal et le plus efficient possible pour assurer sa santé. On a des services qui ferment, on a des lits qui ferment, on a des soignants qui sont en souffrance et on est dans un conflit qui est permanent. Moi, j'ai encore un souvenir d'une garde que j'ai fait quand j'étais urgentiste où on m'a expliqué que l'appareil à ECG pour voir les battements du cœur était cassé aux urgences. Quand même embêtant, et qu'on pourrait pas, on avait qu'un seul des deux laryngoscopes pour intuber des gens qui étaient fonctionnels parce que l'autre était cassé, qu'il y avait une pièce manquante et que la pièce était en commande, mais qu'on l'aurait pas avant 3 semaines. C'est aussi ça, l'état des urgences de l'hôpital public. Donc quand je vous dis, en fait, on a l'impression, nous, soignants, que ça soit médecin, infirmier, aide-soignant, sage-femme, peu importe, mais on a l'impression, en fait, d'être réellement aux commandes d'un avion prêt à se crasher parce qu'il tient avec des bouts de scotch. Je crois que je vais bien parce que j'ai retrouvé la foi dans mon métier. quand je me suis arrêtée il y a un an, je ne suis pas sûre que je vous aurais dit ça. L'année dernière, du coup, j'ai fait un burn-out, j'ai été arrêtée 8 mois. J'ai fini par m'effondrer en larmes en consultation ici, consolée par une patiente. Donc on était déjà sur une situation médico-psychosociale qui était très 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 tendue. Et en fait, moi, ce qui m'a étonnée au moment où j'ai craqué moi-même, c'était la fragilité des soignants au sens large, qu'ils soient médecins, infirmiers, aides-soignants, parce que j'ai craqué, oui, mais j'ai eu énormément, énormément de témoignages de gens autour de moi, y compris des jeunes, qui étaient en train de craquer ou qui vraiment disaient, bah non, mais moi aussi j'ai craqué l'année dernière, mais finalement on se retrouve très très seul par rapport à tout ça, et on se retrouve à ne pas trop savoir comment gérer. Donc j'ai repris le travail là au mois de septembre, ça se passe bien, je me remets, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'on sent bien que là, maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation qui est très 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 tendue. Et je pense que réellement, en fait, on a des moments d'inattention, on a des moments où on est préoccupé, on a des moments où on est capable de faire n'importe quoi. Moi-même, quand j'étais effectivement pas bien, j'ai commencé à prendre une bière tous les soirs pour me détendre. Et puis c'est une bière, et puis c'est deux, et je suis pas du tout devenue alcoolique. Mais je pense que c'est une réalité de dire que bah, parfois, en fait, quand la soupape explose, il faut faire attention, il faut faire avec. J'ai eu un accident de vélo au mois de novembre, je me suis cassé l'épaule. Est-ce que c'est parce que j'avais eu une grosse journée, est-ce que c'est parce que j'étais préoccupée, que je pensais à autre chose? C'était un accident, donc on l'interprète comme on veut. Mais c'est vrai que je ne crois pas avoir mis ma vie en danger. Je suis certaine de ne pas avoir mis la vie en danger de mes patients, parce que ça, c'est la priorité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans une surmentalisation permanente, justement, pour focaliser sur cette attention à la tâche, sur cette attention aux patients, qui est l'enjeu, en fait, de notre corps de métier. C'est de protéger les gens et de faire en sorte qu'ils soient pris en charge le mieux possible, quoi. Tous les soignants, hier, ont hurlé en disant... Monsieur Macron dit que la santé n'a pas de prix, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on dit la santé n'a pas de prix et que les soignants disent on a besoin d'aide, on a besoin de moyens pour préserver la santé des gens. Oui, il dit je compte sur vous, oui, il peut compter sur nous parce qu'en fait les soignants sont des gens d'honneur, c'est des gens fiables, c'est des gens fiers de faire ce qu'ils font et ils ont raison. Mais la réalité c'est qu'en fait on essaiera de maintenir le navire à flot. Mais qu'en fait, on est aussi capable de mettre nos vies en danger pour ça. Et qu'en fait, ce conflit humain, ce conflit éthique, il est quand même très très fort et il est aussi au détriment de nos vies personnelles. On a a priori des chiffres de contagion qui sont extrêmement forts et peut-être plus de cas complexe ou de cas graves que prévu, et qu'il est possible, et ça c'est la volonté du gouvernement, d'étaler les contagions et les cas graves en réanimation, mais sachant que le collectif interhôpitaux dit depuis un an que les capacités d'accueil de l'hôpital sont déjà saturées, et ça c'était avant même la crise du coronavirus. Donc oui, je pense que là, les soignants sont en danger parce qu'ils vont être pressurisés dans justement cette nécessité que les patients doivent avoir de pouvoir bénéficier d'une médecine de qualité, de soins de qualité. Mais la question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura assez de respirateurs? Est-ce qu'il y aura assez de brancards? Est-ce qu'il y aura assez de médecins, d'infirmières aussi? Parce que fermer les écoles, c'est aussi ça. C'est comment allons-nous, même moi, hein, comment vais-je faire garder mes enfants pour pouvoir aller travailler? Je suis tiraillée, là aujourd'hui je suis tiraillée entre la volonté de dire ma place est en train de soigner les gens et de permettre aux gens de se soigner et de rester chez eux en confinement pour ne pas contaminer les autres. Mais d'un autre côté, j'ai deux enfants qui ont 3 et 5 ans. Comment je les fais garder? Parce qu'il n'y a pas d'école. Comment je vais faire pour combiner ces deux vocations-là? J'ai envie de vous dire que ma vocation de maman passera d'abord et ça c'est évident. Mais qu'en tant que soignante, je sais bien que ma place est aussi auprès de mes patients et de dire... Il y a la permanence de soins, il y a l'accès aux soins, il y a vraiment cette préoccupation du patient au sens large pour préserver la santé d'une population tout entière en fait.
Voici ensuite Jean-Louis Cusac. C'est la deuxième personne que nous avons rencontrée vendredi dernier. Il est trader professionnel depuis 1981 et dirige à présent une société de trading et de conseil financier à Paris, dans le 11e arrondissement, qui s'appelle Perceval Finance. C'est plutôt un genre de gros poisson, pas le gars qui boursicote à la maison. Rémi Dybowski-Douat l'a rencontré dans sa propre salle des marchés, au lendemain de la chute historique de la Bourse de Paris, la pire de toute son histoire. Il est posté derrière 20 écrans, des graphiques, des courbes, des chiffres inaccessibles aux béotiens. Il est en liaison constante avec 80 traders, il surveille les marchés, il vend, il achète, il élabore la meilleure stratégie pour tirer le meilleur parti de la crise financière déclenchée par l'épidémie de Covid-19.
Bon, on attaque la fin de journée, là, enfin 15h. Il n'y a pas de questions, rien à signaler de particulier.
Si, est-ce qu'on peut commencer le week-end maintenant?
Ouais, tu peux. Ouais. De toute façon, moi j'ai mis les barbelés. Je vais faire la fin de journée en roue libre. Hein. Puis en plus, faites gaffe parce qu'on est vendredi. Essayez toujours de respirer trois fois avant d'agir parce que vous êtes tous affectés par ce qui s'est passé et donc on perd de l'objectivité. Et ça, vous allez après le regretter si vous prenez des décisions trop rapides. Donc soyez cool. Hein. Je vous parle en même temps, je regarde, ça remonte 30 points en 2 secondes. Ok ?
D'accord, merci.
Allez, à toutes.
Vous avez perdu des sous depuis avant-hier, vous ?
Pas mal, quelques centaines de milliers d'euros. Bah oui, 200 peut-être, 300, mais... Oui, mais par contre, dans la descente, j'ai gagné énormément, donc c'est toujours pareil. Les pertes, ça peut être 200-300, les gains, ça peut être 300-400-500. Moi, ce que je surveille personnellement, c'est ma capacité à faire face à des scénarios hyper négatifs. Mais... si, par exemple, le marché ne bouge plus jusqu'à la vendredi prochain, ma perte globale sera peut-être réduite à 150. Comme précédemment, j'ai gagné beaucoup plus, je serai satisfait. L'idée étant que, dans un truc pareil, ne pas perdre beaucoup d'argent pour un professionnel qui est à fond sur les marchés, c'est énorme. On a vécu quelque chose d'historique. C'est-à-dire que la baisse des marchés, en fait, en 4 semaines, c'est 34%. Ça, c'est du jamais vu. Le problème, c'est que là, dans ces phases de marché, le bon sens, la notion de la valeur de l'entreprise n'a plus cours. Et tout le monde réagit à très court terme, et surtout dans le stress le plus total. On a des gens, moi j'ai des potes au téléphone, il y en a un, par exemple, il y a quelques jours... Il me dit, si on casse 4003, je saute. Ben, je dis, on va les casser, c'est presque certain. Donc il a mis 400 000 euros sur son compte, de plus. Il me dit, je tiens jusqu'à 4000. Et hier soir, on est allé chercher 3009. Donc il ne tient plus. Mais c'est quelqu'un qui a dû perdre, je ne sais pas, sur 1 million, il a dû perdre 600 000 euros. Ouais, j'en ai vu, surtout sur des CFD. Bon, c'est des marchés, si vous voulez, à effet de levier, un peu dangereux. Enfin, au départ, ils ont mis 10 000, mais ils ont gagné, puis ils passent négatif, ils mettent 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et ben, ils arrivent à des situations où les mecs sont liquidés, le compte vaut zéro, voire négatif. Et ils se retournent et ils s'aperçoivent qu'à leur banque, ils doivent de l'argent. Et ils ne savent pas comment le payer. Ils n'ont plus rien. Ils se retrouvent dans des situations de stress gigantesques. C'est énorme. Hein. Bah, quand ils perdent tout, j'aimerais pas que ça refasse comme en 2007, 2008. Il y a quand même des gens qui sont suicidés. Hein. Donc, ouais, c'est chaud. Il y en a qui sont pas bien, ouais. Pour lesquels je suis très inquiet. Ouais. Là, il y a les restaurateurs, c'est la cata. Là, j'ai discuté avec un copain en Corse, il me dit j'ai 5 employés que j'ai embauchés pour le 1er avril, mais il n'y a personne, donc je suis obligé de leur dire de rentrer chez eux. Partout, c'est la chute totale du chiffre d'affaires. Et là, vous allez avoir en France, malgré toutes les mesures que prendra le gouvernement, de toute façon, des boîtes qui vont déposer le bilan, c'est certain, certain. On ne peut pas faire autrement.
Est-ce qu'au final, vous pensez que vous allez gagner quand même un petit peu d'argent avec le coronavirus ? Est-ce que c'est possible ?
Alors, on peut en gagner si on est dans le bon sens, bien évidemment. Moi, si vous voulez, je me suis sorti de toutes les galères. Ok. Je me désensibilise. J'y vais à fond, à fond, à fond, à fond. Et à un moment, je dis stop. J'attends et je recommence. Bon, ça, c'est peut-être ce qui fait que je suis vivant après 40 ans. Alors, ça n'empêche pas que le stress est très fort. Le stress, ben, il faut faire un peu de respiration. On dit que c'est un métier extrêmement dur parce que, justement, il y a une tension exceptionnelle, énorme. Les gens ne peuvent pas se rendre compte parce qu'ils jouent de l'argent, ils jouent leur vie, ils se disent « mais demain, je ne vais peut-être pas pouvoir manger ». Ils ont parfois honte vis-à-vis de leurs proches. Après, on est là dans son lit le soir, on dort pas parce qu'on pense que cet argent aurait mieux été utilisé pour les enfants ou pour... Il y en a qui se retrouvent seuls. Moi, j'en ai connu, leur femme se barre parce qu'ils ont tout paumé, tout l'argent qui était mis de côté pour acheter une maison. Enfin, j'ai tout vu, hein. Je pourrais en raconter des histoires pendant toute la nuit. Et donc, cette situation, aujourd'hui, on la retrouve. Je sais qu'elle est très importante. Vous vous rendez compte, 13% de baisse, 14 hier, et ça remonte de 13 et ça rebaisse de 5. Donc moi, là-dedans, j'ai réussi à faire de l'argent. Je me retrouve au même prix qu'hier, par exemple, à 16h. J'ai fait 20 000 euros. C'est pas beaucoup, 20 000 euros. Et puis, vous continuez. Il faut avoir le moral pour ça. Ça demande beaucoup de... C'est dur, hein, quand même. Je le dis, hein, c'est difficile pour tout le monde. Hein. Donc, non, c'est une période exceptionnelle, où il y a beaucoup de détresse. On peut toujours dire, bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas essayer de spéculer, mais ça, c'est pas... Puis après, il y a aussi le plaisir de faire des choses sur ces marchés. Il y a aussi le plaisir de... Il y en a qui prennent du plaisir à jouer au poker, aux échecs. Il y en a qui prennent plaisir à jouer en bourse. Et puis on peut jouer en bourse d'une manière intelligente. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Sauf que là, c'est vrai qu'on est fatigué. Une semaine comme ça, intensive. Moi, j'ai quand même bossé, là, je sais pas, 15 heures par jour. Cette nuit, je me suis levé deux fois, je regardais les écrans. C'est du 15-16 heures par jour. Parce que parfois, on se dit, bon, allez, je vais me détacher un peu, je vais faire autre chose. Mais hier, midi, j'ai pas mangé, par exemple. Bon, c'est pas grave, ça me fera pas de mal. Midi, je me suis forcé à y aller. Et puis, d'un coup, le marché explose à la hausse. À 13h30, là, il est monté. Vous voyez, là, tout en haut, c'est 13h30. J'ai vendu, là. Je pensais jamais que j'aurais vendu sur ce prix-là. J'ai couru. Enfin, je suis revenu au bureau. Je l'ai pas fait à distance. Une demi-heure après, le marché avait perdu 2%.
Donc, vous avez gagné combien en vendant à ce moment-là ?
Ah, pas beaucoup, parce que c'est des petites quantités. Là, j'ai fait 10 lots, 10 lots. Là, ça fait 10 000. Voilà. Dès qu'on a des rebonds comme ce matin, c'est énorme, je gagne beaucoup. Je m'occupe pas du coronavirus, moi. Avec le contexte, normalement, on doit gagner. Le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup de techniques, beaucoup de sang-froid, pas paniquer, respirer à trois fois avant de faire quelque chose, avoir une vision du marché, si vous voulez, en trois dimensions. Moi, mon problème, c'est pas que ça monte ou que ça descende, c'est que ce que je fais en permanence, là, je dois me dire, bah, si ça monte, qu'est-ce que je fais ? Si ça baisse, qu'est-ce que je fais ?
Parce que vous avez combien d'argent engagé dans cette histoire-là maintenant ?
Oh, ben moi, je joue toujours avec la même somme. Hein. 2 millions, par exemple, 3 parfois. Mais je joue et je sors quand j'ai besoin d'argent. Par exemple, là, aujourd'hui, pour moi, ça va représenter, je sais pas, peut-être 400 000 euros d'ici la semaine prochaine. Et je suis prêt à perdre 100 000, même sur les futurs, ça me dérange pas. Parce qu'à la fin, si je gagne 400 et je perds 100... Bah, j'ai gagné 300, donc je suis ravi. Mais c'est un exercice difficile.
Sorti avec exécuté.
Voilà, achat limite exécuté. Là, ça veut dire que... Donc là, j'ai gagné un peu, là. Là, je suis content. Donc, oui, là, c'est 5 000 euros. Voilà, 5 000 euros. Alors, évidemment, il y a des gens, ils vont dire, ils gagnent 4 SMIC en 2 heures. Ouais, mais enfin, je les paume aussi en 3 minutes, hein, donc... faut pas... Non, mais je veux pas que les gens imaginent que c'est facile et qu'on arrive à gagner 5000 euros comme ça. Voilà.
Après... Bon, vous les avez gagnés, en tout cas, là.
Ouais, ouais.
Et aujourd'hui, vous gagnez combien, vous diriez, par mois ?
Oh, c'est... Je peux pas lire, mais c'est plus que... Ouais, mais... C'est, bah, c'est toujours embêtant, après... Moi, par exemple, si je gagne globalement, hein, dans tout ce que les opérations que je peux être amené à faire, 1 million d'euros, je suis ravi, quoi, là. Par an, pas par mois. Hein. Pas par mois. Non, mais moi, ça me va très bien. If you wouldn't be my girl, whose would you be? You told me not to take your lust, but you took it from me. But I've never been one for the rules, I take what I see. Well, I watch ya, I see ya, I want ya, I need you badly. I don't like here, oh no, I don't. If I don't get what I want, if you wouldn't be my babe, whose babe are you? Oh, I wonder who's being your slave. I seen you on your own, looking over all alone, and I'm hoping that at home there's no one. And I reckon you got game, telling me that you're just playing, but I'm hoping that we're the same. And I don't like it, oh no I don't. If I don't get what I want, I don't like it, oh no, I don't. If I don't get what I want. I can love you in ways to tremble you through. Oh, come on, darling, tell me your name and how do you do?
C'était Le coronavirus, la bourse et la vie, un reportage de Rémi Dibowski-Douat, enregistré, je le précise, vendredi 13 mars. C'était à une autre époque, comme je vous le disais, une émission réalisée par Emmanuel Geoffroy, attachée de production, Gwendoline Troiano, Aurélie Marsay et Sarah Djeriwi. Merci à Madeleine Lhôte et à Jean-Louis Cussac. Les pieds sur terre, on essaie de continuer, comme d'habitude, à vous informer, à vous raconter des histoires et à vous écouter.